Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Quelle est l'importance de l'allaitement maternel? Pourquoi est-il important d'allaiter? Vous savez, le programme national de nutrition recommande souvent l'allaitement maternel exclusif des enfants âgés de 0 à 6 mois. Cependant, certaines mamans ne les font pas. Et d'ailleurs, nous sommes pendant la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Alors, à cette occasion, on va parler de l'importance de l'allaitement. Pourquoi est-il important d'allaiter son enfant? Docteur Annie Moutelesi, bonjour.
Bonjour, monsieur le
journaliste. Vous êtes médecin nutritionniste. Alors, parlez-nous de cette semaine mondiale de l'allaitement.
La semaine mondiale de l'allaitement, donc, c'est une, comme le nom l'indique, c'est une semaine mondiale internationale.
Oui.
Donc, à l'instar de tous les pays, la RDC ne peut pas être à côté. Et donc, chaque année, au mois d'août, nous réservons une semaine dédié à l'allaitement qu'on appelle Semaine mondiale de l'allaitement.
Mmh.
Et donc, pour la RDC, cette semaine a commencé du 4 au 10.
Il y a, du 4 au 10 août.
Du août.
Oui.
Il y a quelques activités qui ont déjà commencé. Donc, c'est dans le cadre de soutenir, de promouvoir et d'encourager les mères à allaiter.
Mmh.
Et donc, on sait que l'allaitement se fait du 1er janvier au 1er décembre.
Mmh.
Mais, nous réservons une semaine pour essayer un peu d'intensifier, de faire les communications pour
sensibiliser les
mamans pour essayer d'allaiter.
Monsieur Narcisse Kimbombo, dites-nous pourquoi est-il important d'allaiter son enfant et surtout l'allaitement exclusif?
Merci beaucoup. Ce que vous devez savoir, l'allaitement maternel est une pratique très très importante qui contribue à la croissance et à la bonne santé des enfants.
Mmh.
Alors pourquoi on insiste beaucoup sur l'allaitement maternel exclusif durant les 6 premiers mois? C'est que nous devons savoir, pendant cette période, l'enfant n'a que le lait maternel comme nourriture. Donc, le lait maternel, c'est un aliment complet pour un enfant durant les 6 premiers mois, parce que ça contient des nutriments. Ça contient aussi de l'eau en quantité suffisante qui permettra d'étancher la soif de l'enfant. Et puis, le lait maternel contient aussi des anticorps maternels qui protègent l'enfant contre les infections.
Mais certaines mamans préfèrent ajouter encore de l'eau à côté et disent que l'enfant a besoin de boire de l'eau. C'est un être humain qui a besoin de l'eau.
Non, c'est pas bon. Parce que dans le lait maternel, il y a 90% d'eau. Donc, la quantité d'eau est vraiment en quantité suffisante. Et d'ailleurs, lorsque la maman donne, en plus du lait maternel, de l'eau supplémentaire à l'enfant, c'est que nous devons savoir qu'est-ce qui va arriver. D'abord, l'enfant va faire des diarrhées, si cette eau-là est contaminée. Et puis, deuxièmement, lorsque l'enfant prend de l'eau et de lait maternel, l'enfant ne va pas... Disons, l'estomac de l'enfant est trop petit et... l'enfant prendra une petite quantité de lait. Or, lorsque l'enfant tète moins, la conséquence, la quantité de lait, la production de lait va baisser.
Alors, vous avez d'ailleurs dit que dans le lait maternel, il y a 90% d'eau.
Oui.
Ah, d'accord.
Oui.
D'accord. Alors, je reviens à vous, docteur Annie. À quel moment faut-il commencer à allaiter son bébé?
Pour commencer à allaiter le bébé, donc ça commence déjà dès la naissance. Donc dès que la maman met son enfant au sein, donc c'est pour cela que nous recommandons aux professionnels de santé d'aider les mamans à mettre l'enfant au sein, directement l'enfant au sein, parce que le premier lait jaunâtre qu'on appelle colostrum, c'est le premier vaccin que nous donnons à l'enfant et ça lui protège contre les maladies. Telles que les infections respiratoires aiguës, les diarrhées, donc ça contient les anticorps. Pour récapituler, je dirais que on allaite l'enfant dès sa naissance, à la première heure.
Mais certaines mamans se plaignent, non, le lait ne sort pas, et puis on lui dit, bon, il faut boire beaucoup de thé, il faut manger beaucoup de sauce, manger ceci, cela, ça va stimuler la production de lait.
Oui, c'est vrai que c'est, la maman doit avoir une bonne santé aussi, une bonne nutrition. Donc, c'est une femme qui a l'aide, c'est pour cela que nous recommandons, disons, une femme qui a l'aide doit avoir environ 2 repas supplémentaires. Mais pour bien allaiter, donc, il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu. Donc, l'enfant doit fréquemment allaiter, et non seulement fréquemment allaiter, mais également le positionnement de la maman, tout comme de l'enfant, compte dans ce qui concerne l'allaitement pour permettre aussi cette production du lait.
Bien, déjà les auditeurs appellent pour participer, pour vous poser des questions. Nous avons Omar Kigalo à Kinshasa, Patrick Ibali nous appelle de Kindu. Omar Kigalo, bonjour.
Bonjour Jody Kachamé, bonjour à vos invités.
On vous écoute.
Merci Jody, l'émission est de nature féminine, ça m'a intéressé parce que un témoignage. Et dans ma famille, quelqu'un qui est mort, une mère, elle a laissé l'enfant à l'âge de 3 mois. Et cet enfant a été allaité par une autre mère, c'est-à-dire une voisine. Est-ce que cette expérience est scientifiquement recommandée? L'enfant vit jusqu'à aujourd'hui, là maintenant, il est 22 ans. Deuxième question. Est-ce que il est recommandé ou c'est prouvé scientifiquement que l'on peut arrêter un enfant même à un âge très petit? J'ai un autre témoignage, une femme qui a refusé d'allaiter sa fille. Et on l'a fait grandir, excusez-moi le terme, avec le lait artificiel. Mais l'enfant vit jusqu'à aujourd'hui. Je voulais seulement savoir ces deux expériences. Sont-elles le fait du hasard ou scientifiquement c'est recommandé aussi? Voilà mes deux témoignages et mes deux questions. Je vous remercie.
D'accord. Patrick Kibali, vous êtes à Kindu. Bonjour.
Oh, bonjour aujourd'hui et bonjour à l'invité.
On vous écoute. Hein.
Oui, j'ai des questions à poser à l'invité qui sont là.
Oui.
Est-ce que l'allaitement peut sauver les vies?
Patrick, on vous entend pas très bien. La communication n'est pas bonne. Veuillez vous déplacer un tout petit peu. Peut-être que ça peut améliorer la liaison, la qualité de la communication.
Je l'ai déjà fait.
D'accord, allez-y.
Oui, donc, je dis que c'est dans les milieux défavorisés, caractérisé par les manques d'eau potable et d'hygiène. Est-ce que l'allaitement peut sauver des vies?
D'accord, merci pour la question. Aimé, oui, vous avez une deuxième question?
Oui.
Alors, désolé, la communication. Patrick, on vous entend pas très bien, désolé. Aimé, Minako, vous êtes à Isiro, bonjour.
Bonjour, Jody.
On vous écoute.
Oui. J'avais une seule petite question à poser à l'invité, parce qu'actuellement, nous voyons il y a des filles qui mettent au monde précocement avant même de finir les études. Vous verrez, elle laisse la femme à la maison et sera à l'école, et quand elle rentre, elle allait la femme avec les biberons. C'est pourquoi ma question était de savoir, est-il bon vraiment d'allaiter la femme avec les biberons? Ça n'a pas un impact sur la santé de la femme.
D'accord, merci. Aimé, Babou Michel, vous êtes à Loubero, au Nord Kivu. Bonjour.
Bonjour, j'ai dit.
On vous écoute, Babou.
Merci beaucoup pour ce sujet, j'ai dit, mais j'ai quelques préoccupations à poser à notre invité qui est avec vous au studio.
Oui.
La première préoccupation, j'ai dit, concerne les mamans qui travaillent et qui laissent les enfants entre les mains de leur berceuse. Et ces enfants sont allaités artificiellement avec des biberons, des glucoses et consorts, et seulement ils ont droit au lait maternel le soir une fois par jour. Quelles sont les conséquences qui peuvent en découler? Et une dernière préoccupation, j'ai dit à poser à notre invité, ça concerne les enfants qui sont des enfants qui viennent de naître, mais leurs mamans sont victimes de VIH et SIDA. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là pour que l'enfant ne soit pas directement aussi victime? Est-ce qu'il peut facilement être allaité par une autre femme ou bien carrément, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà un peu mes deux préoccupations que je voulais vous poser à partir de l'heure aujourd'hui.
Merci Babou. Ogi Bendelo, vous êtes à Kikwit. Bonjour.
Bonjour aux invités et bonjour à toutes et tous ceux qui sont présentement branchés.
Quelle est votre question, Ogi?
Oui, je dis, j'ai des questions à poser à notre invité. L'invité a dit qu'il y a plus de 80% d'eau dans le lait maternel. Alors, je voulais poser la question. Il y a des fois, chez ma voisine, l'enfant, elle a un bébé de 3 ou 4 mois comme ça. Alors, on a constaté que lorsque l'enfant pleure beaucoup et que maman lui donne de l'eau, maintenant l'enfant se calme un peu, mais avec le lait maternel, ça ne suffit pas encore. C'est pourquoi j'ai voulu lui poser la question, est-ce que réellement il y a les taux de l'eau tel qu'elle a dit là dans le lait maternel, et comment est-ce que ça se fait que si l'enfant est allaité suffisamment, mais elle continue à pleurer. Mais lorsque sa maman lui donne de l'eau à boire, l'enfant calme maintenant de pleurer. Et la deuxième question était de savoir, il y a des mamans qui allaitent l'enfant, donc une femme qui allaite l'enfant après quelques 5 ou quelques 4 ou 5 minutes comme ça, elle laisse l'enfant et l'enfant commence à pleurer à cause d'urgence qui l'attend. Je voulais avoir des précisions auprès de notre invité. Il faut combien de temps exactement pour allaiter l'enfant? C'était là mes deux questions aujourd'hui. Bonne suite de programme sur les antennes de la radio.
Bien, Apollinaire Ngouza nous appelle de Kolwezi, Alissano. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jeudi Daniel Kachama, ainsi que à nos deux invités du jour.
On vous écoute.
Moi, j'avais des préoccupations à poser par rapport au sujet. Ma première préoccupation était celle de savoir combien de temps il faut allaiter l'enfant. Et c'est comme ma deuxième préoccupation était de savoir il faut allaiter l'enfant pendant combien de heures et combien de fois par jour. C'était ça un peu, monsieur Jeudi Daniel Kachama.
D'accord, merci. Apollinaire de Kolwezi, alors voilà un sujet qui intéresse beaucoup les auditeurs qui appellent de partout à travers le pays. Vous voulez également participer, nous parlons de l'importance de l'allaitement maternel, appelez-nous au 081 890 63 94. Vous pouvez également nous écrire à service@radiocapi.net.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Alors, nos invités vont répondre rapidement. Je commence avec Monsieur Narcisse Kimbondo, qui est chef des services adjoint des communications au Programme National des Nutrition. Vous avez suivi Omar Kigalo, il dit une mère est morte et l'enfant est allaité par la voisine. On a confié son enfant, qui avait 3 mois, à la voisine pour l'allaiter. Et puis, il y a un autre enfant qui a grandi avec le lait artificiel. Alors, il veut savoir scientifiquement, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces deux cas.
Merci beaucoup pour la parole. Et par rapport à la première, que c'était quoi encore?
Voilà, une mère, une maman est morte, elle a laissé son enfant de 3 mois et on a confié l'enfant à la voisine pour l'allaitement.
Bon, en tout cas, nous en tant que programme national de nutrition, nous ne recommandons pas d'emblée quand la maman meurt, on prend l'enfant, on donne à une autre maman. On ne recommande pas ça. Pourquoi? Parce que avec les... On ne connaît pas l'état sérologique de la nourrice là à qui on veut confier l'enfant. Et si elle est séropositive, bon, ça peut arriver que l'enfant soit contaminé. C'est comme ça que nous, ce que nous recommandons, et si vraiment la famille tient à ce que qu'on puisse confier l'enfant à une autre mère, il faudrait que cette mère soit testée, qu'on soit sûr de l'état sérologique de la mère avant de lui confier l'enfant. Parce que si on n'est pas très sûr, autant ne pas confier. Et peut-être, parce que c'est un cas exceptionnel, s'il n'y a pas une nourrice vraiment qui doit prendre l'enfant en charge par rapport à son alimentation, là, à ce moment-là, on peut recommander l'alimentation artificielle.
Il a parlé aussi d'un enfant qui a grandi avec le lait artificiel.
Oui, donc, un enfant, bon, en fait, ce que nous recommandons est que l'enfant puisse être allaité par sa mère. C'est ce que nous recommandons.
Ça, c'est des cas exceptionnels.
Oui.
Hein, qui peuvent arriver.
Alors, tout ce qu'ils sont en train de dire là-bas sont des cas exceptionnels.
Oui.
Bon, si la mère n'est pas là pour donner, bon, nous recommandons aussi l'alimentation artificielle, mais avec beaucoup de précautions, c'est-à-dire avec l'encadrement d'un professionnel de santé. Voilà la réponse que je
peux donner. Docteur Annie, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, comme Narcisse l'a bien dit, donc il n'est pas recommandé de qu'un enfant soit allaité par une autre mère, compte tenu de l'avènement du VIH qui est en train de battre un record. Par contre, pour l'enfant qui n'a pas de mère, Donc, il est recommandé de, qu'il soit allaité de façon artificielle, mais avec beaucoup de précautions, dont l'hygiène. Donc, l'hygiène des mains, l'eau, tout ça, parce qu'on voit que beaucoup d'enfants qui meurent, c'est plus aux maladies diarrhéiques.
D'ailleurs, c'est la question de Patrick de qui nous dit, dans les milieux où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas assez d'hygiène, est-ce que l'allaitement exclusif est une solution?
Ce n'est pas que dans les milieux où il n'y a pas d'eau. Déjà, l'allaitement, c'est une solution. L'allaitement, c'est une solution. Donc, l'allaitement permet de réduire les taux de mortalité infantile. Donc, si on prend l'exemple de notre pays, donc nous sommes passés, l'allaitement a aidé à contribuer au taux de mortalité infantile. Donc, on est passé de 2001 à 2013, nous sommes passés à 213 à 104 décès. Pour 1000 naissances vivantes. Donc, on a, les décès ont diminué de moitié. Et l'allaitement qui a doublé également, qui a essayé un peu de doubler. Donc, même, au cours de la même période, l'allaitement est passé de 24%. Actuellement, nous sommes à 48%. Et donc, on voit comment vraiment l'allaitement contribue à sauver des vies.
D'accord. Alors, M. Narcisse Aimé, depuis Siro, a parlé d'une fille mère. Elle doit aller à l'école, elle laisse son bébé, on donne les biberons, et puis elle revient peut-être le soir pour l'allaiter. Quel impact cela peut avoir sur la santé? Il y a également Babou Delubero qui a parlé d'une mère qui travaille, qui doit sortir et revient seulement allaiter son bébé le soir.
Bon, merci beaucoup pour la question. Je dirais ceci, normalement, l'allaitement maternel exclusif ne peut pas s'arrêter quand la maman est absente. En principe, ça doit continuer.
Comment?
C'est-à-dire que ce que nous recommandons à une maman travailleuse ou une maman étudiante qui a un bébé de moins de 6 mois, avant de partir au travail ou à l'école, elle allaite d'abord son enfant et ensuite, elle exprime son lait dans une tasse propre et ce lait-là, on va donner à l'enfant pendant l'absence de la mère. Jusqu'à ce que la mère va rentrer et puis elle va continuer à donner le sein à l'enfant. Donc, il n'y a pas de raison de donner. D'ailleurs, nous, les biberons, on ne recommande même pas ça. Et nous appelons ça tueur d'enfant. Parce que le biberon est une source de contamination. Le biberon n'est pas facile à manipuler. Donc, les enfants qui sont nourris au biberon, ces enfants sont souvent victimes de diarrhées.
Mais les mamans ont souvent l'habitude de chauffer un peu d'eau, on met le biberon dedans avec pour stériliser et après on donne à l'enfant.
Non. Parce que d'abord, ce que vous devez savoir, quand l'enfant, on lui donne le biberon, cet enfant-là risque de commencer à refuser le sein. Parce que la tétine du biberon est différente de celle du sein. Donc, l'enfant se sentira à l'aise avec la tétine du biberon que la tétine de sa mère. Alors, c'est comme ça que, à part les infections que les biberons peuvent apporter, l'enfant peut commencer à refuser le sein maternel au profit du biberon.
Alors, vous avez dit une femme qui travaille, elle peut extraire le lait et garder dans une tasse pour donner à son enfant. Docteur, dites-nous, Annie, comment elle va extraire parce que l'enfant ne tire pas.
Ok, il y a des techniques. Donc c'est pour cela on a dit il faut soutenir les mères qui allaitent. Celles qui ne savent pas, il faut essayer de l'aider. Donc c'est en pressant. Donc lorsqu'elle presse les seins et donc il y a du lait qui sort. Et donc elle peut mettre ça dans pas dans une même tasse, mais elle peut mettre même dans trois tasses différentes. Et donc elle sait un peu de presser des quantités et qu'elle laisse dans un endroit.
Elle a rempli les trois tasses.
Non, pas remplir. Donc, elle estime. Elle-même, elle sait que cette quantité est spécifique pour une fois. Donc, la seconde fois, on peut prendre l'autre tasse. Et donc, elle va mettre des quantités dans chaque tasse. Deux, trois tasses selon sa production.
Et elle va garder au frigo?
Non. Bon. Elle peut garder au frigo, mais compte tenu que la majorité de la population n'a pas de frigo, donc on peut laisser à l'air ambiant. Le lait maternel peut se garder entre 3 à 6 heures du temps dans l'air ambiant, mais à condition que ça soit bien couvert dans une armoire, quelque part, où c'est bien protégé, c'est propre. Donc c'est possible. Par contre, j'allais ajouter quelque chose pour les biberons. Vous avez essayé de demander, oui, il y a les mères qui chauffent de l'eau, tout ça. Oui, nous sommes en milieu urbain où les mères ont quand même des notions pour dire que non, je vais chauffer les biberons. Mais je peux dire, en milieu rural, 62% de la population vivent en milieu rural. Et donc, est-ce que tout le monde a cette information? Est-ce que tout le monde a la facilité d'avoir le fait pour faire bouillir les biberons? Donc, voilà les risques. Donc, c'est les minorités qui connaissent comment faire, mais la majorité ne le connaissent pas. Donc, autant mieux ne pas l'utiliser, à part ce que M. Narcisse venait d'ajouter, que les biberons, c'est un milieu où pilulent beaucoup de microbes.
Beaucoup de microbes. Avant de continuer, on va accueillir Lauriane Kizamina, qui nous appelle de Kikwit. On va l'accueillir dans quelques instants et on va revenir aux questions des autres auditeurs.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Pourquoi est-il important d'allaiter son enfant et surtout l'allaitement exclusif? Lauriane Nakizamina, vous êtes à Kikwit, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour Jody.
Bonjour Lauriane, on vous écoute.
Oui, j'ai deux petites questions à poser. La première, c'est celle de savoir jusqu'à quel âge est-ce qu'un enfant est censé être allaité. Et la deuxième préoccupation, c'est qu'il arrive aussi des enfants qui arrêtent d'allaiter de manière précoce, volontairement, par exemple à 3-4 mois. Est-ce que cela a des conséquences sur leur santé?
D'accord, merci Lauriane. Dorcas Télémeza est à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Daniel Kassama, bonjour à M. Narcisse, et pourquoi pas à Dr. Annie.
En vous écoutant.
Oui, merci beaucoup, je salue ce sujet qui est préoccupant et qui intéresse bon nombre de gens. J'ai quelques questions que je vais devoir poser à nos chers invités. Un constat est fait selon une source qui a recueilli l'anonymat que ce sont plus des femmes rurales qui allaitent exclusivement leurs enfants. Par contre, les femmes travailleuses préfèrent donner aux enfants les laits artificiels, entre autres le lactogène, pour ne citer que cela. Et ces enfants grandissent bien, ils ont une bonne santé de plus que ceux qui ont allaité du lait maternel. Pouvez-vous nous expliquer ces phénomènes sur tous les plans?
D'accord, merci. Élodie,
une autre question.
Oui.
Quel présentera les signes d'un enfant qui n'a pas tété le premier lait, appelé le lait jaune?
Pardon, c'est quoi la question?
Quels sont les signes que présentera un enfant qui n'a pas tété le tout premier lait?
D'accord, merci Dorcas.
Et ma dernière question, quel est le message que nos invités doivent lancer à toutes ces femmes qui ne veulent pas allaiter exclusivement leurs enfants? Merci, Jody.
D'accord, bonne journée. Elodie, vous êtes à Guémena, bonjour.
Bonjour à vous qui êtes au studio de la Radio Okapi.
On vous
ma
écoute.
Première question passe d'un constat que j'ai fait lors de la CPN. Pendant la CPN, l'agent de santé nous disait que pour les femmes opposites, ils devaient arrêter d'allaiter les enfants. Un enfant va atteindre 6 mois ou au maximum 8 mois. Alors, je voudrais poser la question. Quand l'enfant sera allaité de 0 à 6 mois, cet enfant-là ne sera pas contaminé par les VIH? Ça, c'est la première question. La deuxième question, le fait que, parce que c'était un constat que j'avais fait chez une amie, quand elle a cessé d'allaiter son enfant à 6 mois, l'enfant maintenant n'avait pas l'habitude de prendre de l'air artificiel, soit de bouillie, quoi, de la bouillie. L'enfant avait des difficultés, il réclamait toujours les lait. Est-ce que le fait de demander même aux séropositifs d'allaiter les enfants juste de 0 à 6 mois ne peuvent pas créer des amis pour leurs enfants? Ou quel mécanisme le PVV peut prendre pour la, lorsqu'ils vont traiter les enfants les maternelles.
Oui.
Et contrairement à ce que Dorcas dit, dans mon milieu ici, dans les milieux ruraux, c'est difficile de trouver une femme qui allait exclusivement l'enfant. Ils ont tendance de nourrir les enfants à 3, 4 mois, 5 mois. Les foufous d'ailleurs, avec des poissons frais comme les
Ngolo. Oh là là. À 3 mois.
Alors je vais vous poser la question. Pardon, je dis.
Vous dites qu'elle donne l'Ngolo et les foufous au bébé de 3 mois.
Au bébé, oui. Des tomates, elle donne un bébé de 3 mois, de 4 mois. Mange déjà des fois, ce sont les biscuits. Ils font ça à bouillir. Ils sont en train de nourrir les enfants. Ce sont des caras. Alors, je voulais poser la question, j'hésitais. Quelles sont les conséquences d'un enfant de 3 mois, de 4 mois, qui mange déjà les foufous, qui a déjà la sauce de la tomate à la bouche? Et puis, il y a une question que j'allais poser, un auditeur aussi avait posé, peut-être que je n'ai pas suivi la réponse. Un enfant, quand on les allaite, il pleure. Mais quand on donne de l'eau, il cesse de pleurer. Quand on les allaite, il continue de pleurer. Quand on les donne la nourriture, il cesse de pleurer. Comment les invités peuvent répondre tout, et ou bien cette
dernière
question-là. Voilà mes préoccupations
aujourd'hui. Merci, Elodie. David, vous êtes au sud Kivu, à Kiliba. Bonjour. David.
Oui, bonjour, bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour à tous les invités, à tous les auditeurs de la radio KP qui nous suivent à ce moment.
On vous écoute, David.
Oui, ma propre, je voulais juste poser la question à l'invité qui est au studio. J'aimerais savoir, parce que souvent, dans les milieux ruraux comme Kiliba, là où je me retrouve actuellement, les parents soit ne savent pas et ne respectent pas les règles de naissance désirables. Et cela fait que souvent les mamans tombent enceintes, soit après des semaines, des mois de naissance.
Oui.
Et souvent, on voit que l'effet là de tomber enceinte affecte souvent la santé de l'enfant. Alors, ma première préoccupation, j'aimerais savoir, que préfèrent les parents ou la maman qui tombe enceinte à des mois ou des semaines après la naissance de son enfant, et souvent, est-ce qu'elle doit nécessairement continuer à allaiter cet enfant? Or, dès que cet enfant continue toujours à prendre du sein de sa maman, souvent, ça affecte la santé de l'enfant. Donc, j'aimerais savoir, est-ce qu'elle peut faire la maman dès qu'elle tombe enceinte après des mois de la naissance? Et à l'égard de son enfant.
D'accord.
Ma question préoccupation, j'aimerais savoir, est-ce que du moins cet effet-là de l'enfant soit affecté des distincts qu'elle prend de sa maman, or la maman est enceinte, est-ce qu'elle est reconnue auprès, donc scientifiquement?
D'accord. Merci David. Merci à tous les auditeurs pour toutes ces questions. Ces sujets intéressent beaucoup les auditeurs. Monsieur Narcisse, je reviens à vous. Vous avez suivi une question, une maman PVV. Cette question est revenue plusieurs fois. PVV, quelles précautions prendre pour que l'enfant ne soit pas infecté? Doit-elle continuer à donner l'allaitement exclusif à son bébé?
Bon, oui. En fait, les recommandations du programme national de nutrition sont les suivantes. Une maman PVV doit allaiter son enfant de manière exclusive et il n'y aura pas de problème. Mais ce que nous demandons aussi, il faudrait que cet allaitement maternel soit protégé, c'est-à-dire que la maman doit être sous ARV et aussi l'enfant. À ce moment-là, cette maman peut même allaiter jusqu'à 12 mois. Parce qu'auparavant, on s'arrêtait, on demandait à ce qu'on puisse arrêter avec l'allaitement maternel chez une mère se repose à 6 mois. Mais maintenant, avec la protection des ARV, la maman même peut continuer à allaiter son enfant jusqu'à 12 mois. Et à partir de 12 mois, on peut arrêter. Mais ce que je dois compléter en disant que une maman séropositive qui allaite son enfant doit faire en sorte que l'alimentation de son enfant ne soit pas mixte, c'est-à-dire mélanger le lait maternel avec autre chose.
Avec le foufou, avec
le foufou, autre chose. Parce que les autres aliments-là peuvent léser les types digestifs. Or, lorsque le type digestif est lésé, c'est-à-dire une blessure, c'est une porte d'entrée pour les microbes. À ce moment-là, même si, à ce moment-là, quand l'enfant prend le lait maternel, c'est le lait-là qui contient les virus. Disons le VIH, ça va entrer dans l'organisme de l'enfant et l'enfant sera contaminé. Donc, lorsqu'une maman est séropositive, il donne le lait maternel à son enfant, il ne peut pas donner autre chose pendant les 6 premiers mois.
D'accord. Alors, docteur Annie, vous avez suivi, la maman donne la tétée, dès qu'elle arrête, l'enfant continue à pleurer. Quand on lui donne de l'eau, il se calme. Comment expliquer cela?
Bon, c'est l'impression que nous avons. Nous avons essayé de soulever ici que les maternelles contiennent 90% d'eau. Mmh. Même dans les pays chauds, les études ont été démontrées que même dans les pays chauds, même les pays sahéliens, donc l'enfant peut être allaité exclusivement au lait parce que dans les laits maternels, on a 90% d'eau. Mmh. Donc, les premiers laits, donc pour expliquer, les premiers laits que la maman donne à l'enfant, il y a d'abord de l'eau. C'est de l'eau d'abord qui sort pour permettre d'étancher la soif de l'enfant. Et c'est le dernier qui contient la matière grasse ainsi que les minéraux et les vitamines. L'impression dans quel sens? Donc peut-être la maman n'aimait pas. Il y a un auditeur qui venait de dire que non, la maman n'est peut-être que l'enfant une fois. Donc il n'y aura pas assez de lait. Donc lorsqu'on...
Il faut donne fréquemment. L'enfant combien de fois?
Donc... l'enfant doit être tété plusieurs fois. Donc, à tout moment et à la demande.
À tout moment et à la demande.
Il ne faut pas attendre que l'enfant puisse pleurer pour lui donner. Parce qu'il y a des mamans comme ça, l'enfant ne pleure pas, c'est pour cela que je ne lui donne pas. Donc, oui. À tout moment, vous-même, en tant que mère, vous devez avoir les réflexes. Ah, cet enfant, j'ai fait 2 heures, 1 heure, l'enfant ne tète pas, donc je dois lui donner les laits. Donc, c'est à tout moment.
Et il faut les laisser téter pendant combien d'heures? Parce qu'il y a des mamans qui sont trop pressées.
Oui, justement. Et partir, raison pour laquelle il faut être concentré. Il faut être concentré. La maman, lorsqu'elle allaite, donc elle ne doit pas faire autre chose. Donc, il y a des mamans, lorsqu'elle est en train d'allaiter, elle lave
les assiettes là-bas. Non. Elle regarde la nourriture un peu au feu.
Non. Non, normalement, lorsqu'on allaite l'enfant, on ne fait que faire cette
activité-là.
À ce moment-là, elle peut prendre 20 minutes, 30 minutes, autant de 2 minutes pour permettre quand même à l'enfant d'avoir suffisamment de lait et ce qu'il a besoin.
Oui, monsieur Narcisse.
Oui, je voudrais compléter, docteur Annie, en disant que, en principe, ce que nous recommandons, la fréquence de tété doit être de 8 à 12 fois par jour. Donc, c'est ça la fréquence que nous recommandons. 8 à 12
fois par jour.
Oui, ce n'est pas 3 fois, 4 fois par jour. Ça, c'est insuffisant.
C'est insuffisant.
À ce moment-là, la maman ne va pas produire beaucoup de lait. Parce que plus l'enfant tète, plus les quantités de lait, la production de lait augmente. Et aussi, je voudrais aussi compléter en disant par rapport au l'autre aspect là de... C'était quoi encore là, c'est là?
Oui, il y a un autre aspect. Il y a un auditeur a demandé, dans les milieux ruraux, il y a certaines mamans qui donnent le foufou avec le ngolo. Aux enfants, où certains ont l'habitude de faire prendre des biscuits, on essaie d'écraser et on donne à l'enfant.
Oui, donc ça c'est nous déconseillons cette pratique. Parce que nous avons dit que durant les 6 premiers mois, l'enfant n'a besoin que du lait maternel. Parce que le lait, c'est un aliment complet pendant les 6 premiers mois. Il n'a pas besoin de ngolo, de bouillie ou de ceci.
Oui.
Qu'on attende quand l'enfant aura 6 mois, à ce moment-là, on doit commencer à lui apporter ce que nous appelons des aliments de complément. Parce qu'à 6 mois, le lait maternel n'arrive plus à couvrir tous les besoins nutritionnels de l'enfant. On doit ajouter autre chose.
La bouillie.
Oui, la bouillie. Alors, une bouillie consistante. Mais avant 6 mois, l'enfant n'a pas besoin de bouillie ni autre liquide.
Voilà. D'accord. Docteur Annie, David nous dit, une maman vient d'accoucher et deux, trois mois après, elle tombe enceinte.
Ouais.
Alors, à ce moment-là, va-t-elle continuer à allaiter son enfant? Parce que il semble qu'il y a des petits soucis pendant cette période-là.
Ok. Il a recommandé une femme qui tombe enceinte de continuer à allaiter son enfant jusque même la veille de l'accouchement. Il peut maintenant essayer d'arrêter.
Avec tous les malaises qui vont s'en suivre, est-ce qu'elle sera en mesure de le faire?
Quel malaise? La grossesse n'est pas une maladie. C'est un état physiologique. C'est normal. Donc, il n'y a pas de malaise. Donc, il doit continuer à allaiter l'enfant pour protéger cet enfant-là. Et surtout que, je ne sais pas si c'était une erreur. Normalement, une femme qui allaite exclusivement. Donc, l'allaitement constitue une méthode contraceptive à 98%. Donc, si peut-être elle n'avait pas, peut-être elle a essayé d'altérer, c'est pour cela qu'elle est tombée enceinte. Mais sinon, si vraiment l'allaitement est bien conduit de façon exclusive, sans ajouter autre chose, ni eau, ni autre chose, donc ça constitue une sorte de contraception. Et donc, celui qui tombe enceinte avant 2 mois, donc il doit continuer à allaiter son enfant. Jusque la fin même des rapprochements.
D'accord, on va arrêter tout à l'heure. Alors, monsieur Narcisse Lorient de Kikwit nous pose la question de savoir jusqu'à quel âge faut-il allaiter?
Bon, nous recommandons qu'on puisse allaiter l'enfant jusque 24 mois ou plus. Donc 24 mois.
24
mais
mois.
Si la maman trouve qu'elle peut aller même au-delà de 24 mois, ce n'est pas un problème. Mais si, c'est jusqu'à 2 ans.
Elle dit si l'enfant lui-même refuse de téter à 3 mois déjà, qu'est-ce que peut être la conséquence? L'enfant ne peut plus téter à 3 mois.
Comment l'enfant peut refuser à téter à 3 mois? Parce que l'enfant a besoin du lait maternel. Parce que vous savez ce qui arrive, lorsque la fréquence de téter diminue, mais la quantité de lait aussi va diminuer. Mais lorsque vous donnez le sein à l'enfant, l'enfant trouve qu'il n'y a rien. Mais l'enfant va commencer à refuser le sein. Mais si l'enfant tète fréquemment, mais il y aura du lait et l'enfant va continuer à téter jusqu'à 2 ans. C'est ça.
Donc, Cass dit les femmes qui sont dans les milieux ruraux allaitent exclusivement, mais elle a remarqué que les femmes qui donnent le lait artificiel, leurs enfants sont bien portants par rapport à ceux qui sont allaités au sein maternel.
Bon, je ne sais pas si cela a été prouvé scientifiquement, mais c'est vrai que les femmes des milieux ruraux allaitent peut-être faute de moyens. Ceux qui sont dans le vide n'ont pas peut-être la bonne information. Il y en a qui sont influencés par les autres. Ils pensent que le lait artificiel, c'est le bon lait. Mais si c'est ça, nous recommandons à la communauté, ceux qui donnent le lait artificiel. Le lait artificiel, c'est à partir de 6 mois. Dans la boîte, même ceux qui fabriquent le lait, c'est écrit, c'est pour les enfants, interdit aux enfants de 0 à 6 mois. Peut-être que c'est cette information qu'ils n'ont pas. Donc c'est interdit. Et c'est lui qui doit donner, comme on venait de voir, un enfant dont la mère était décédée, on a recommandé qu'il doit avoir une alimentation artificielle. À cela, on doit essayer d'encadrer. Il y a des mesures d'encadrement. Mais généralement, les mamans donnent sans mesures d'encadrement, mais ce n'est pas que leurs enfants sont en bonne santé. Au contraire, ce sont des enfants qui courent le risque de faire la malnutrition. Ils font la malnutrition.
Ils font la malnutrition. Donc, vous recommandez l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois. Et les mamans peuvent continuer à allaiter leur enfant jusqu'à l'âge des 2 ans.
Oui.
C'est ça. Bien, merci Dr. Annie Moutelezi, médecin nutritionniste. Et nous disons également merci à M. Narcisse Kimbondo, chef des services adjoint des communications au programme national de nutrition. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci.